Il est midi sur RCF. Témoin, présenté par Jean-Marie Portero.
Peut-on être ingénieur, pilote de chasse, commandant d'escadrille dans plusieurs pays du monde et devenir diacre, puis prêtre à 70 ans? Eh bien, c'est le parcours un peu hors norme que vient nous partager aujourd'hui Philippe Levert sur RCF. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci donc d'être venu parce que vous avez effectivement fait des voyages beaucoup plus lointains et notamment le premier jour de votre vie, la page 1, elle s'ouvre à Tahiti.
Oui, effectivement, je suis né dans le Pacifique et j'ai vécu toute mon enfance dans le Pacifique avant de venir à l'âge de 18 ans en métropole, comme on dit, où là j'étais en classe préparatoire, puis après c'était le concours de l'école de l'air et puis après le début de ma carrière de pilote de chasse.
Mais comment ça se fait que vous êtes né à Tahiti ?
En fait, c'est mes parents qui se sont même mariés là-bas. Mon père est venu pour travailler dans les télécommunications et puis ma mère, en fait, était la fille de son chef.
Comment on vit un petit garçon à Tahiti en 1954?
Moi je pense que j'ai eu une enfance dorée parce qu'elle était au soleil, il n'y avait pas de problème, j'étais dans une famille aimante où j'ai reçu une bonne éducation religieuse. Donc non, elle s'est passée sans problème. Ça a été aussi l'apprentissage de l'aviation parce que j'ai commencé à piloter à 14 ans. Une enfance bien agréable.
Vous avez eu l'occasion d'y retourner après ?
Oui, tout à fait, oui.
Donc le bac, vous le passez à Tahiti ?
Je l'ai passé à Tahiti.
Un bac C ?
Un bac C, voilà.
Scientifique.
Scientifique. Et puis mon idée, c'était de rejoindre l'école de l'air. Donc c'était une filière scientifique, effectivement. Donc je me suis trouvé en maths sup et en maths spé à Versailles, en interne. La première fois que je mettais des pantalons longs et puis des chaussures fermées.
Et vous vouliez faire pilote de chasse depuis le début ?
Oui, notamment après mes expériences de vol où je me sentais bien quand j'étais tout seul en avion. Et puis j'aimais bien bouger l'avion, donc j'ai fait peut-être quelques bêtises avec...
Le petit looping
voilà, tout à fait. J'ai fait mon premier looping avec un avion qui n'était pas prévu pour ça. 15 jours après mon brevet de pilote que j'ai obtenu à 17 ans et un jour...
On vous l'a fait retirer du coup, non ça...
On m'a mis à pied.
Ah.
On m'a mis à pied pour indiscipline et en me disant... petit 3, un grand C, voilà. Tu vas, si tu veux faire ça, tu vas chez les militaires. Mais j'avais déjà envie de faire pilote de chasse avant.
C'est pas évident de faire pilote de chasse. Il y a beaucoup de jeunes, très souvent, on les entend bien, on voudrait être pilote de chasse, mais entre le moment où on veut l'être et le moment où on le devient, il faut d'abord avoir des aptitudes physiques particulièrement bonnes, et puis intellectuelles aussi.
Oui, en fait, aptitude physique, il faut pas avoir de défaut. Pas de défaut à la colonne vertébrale, pas de défaut au cœur, pas de défaut à la vue. Voilà, c'est plus une question de pas de défaut que des dispositions extraordinaires. Intellectuelle, j'avais choisi une filière, je ne savais pas qu'il y en avait d'autres, une filière, ce qu'on appelle directe, en passant par l'école de l'air qui était une école d'ingénieurs, l'équivalent de Saint-Cyr ou de l'école navale pour les autres armées. On pilote sur des petits avions de tourisme, ils nous font patienter. Mais sinon, le début de l'apprentissage était effectivement à 22 ans, oui.
Et là, vous aviez le droit de faire des loopings?
Ah là oui,
c'était même obligatoire.
C'est même une bonne partie de l'instruction.
Donc vous avez fait partie des avions Salon de Provence qu'on voit parfois voler même au-dessus de Valence.
Oui, alors c'était pas tout à fait les mêmes, c'était des fougues à magistère, mais sinon après effectivement j'ai volé sur le même avion vu que dans ma carrière j'étais instructeur sur Alpha Jet, le même avion que pilote la patrouille de France. J'ai même été présentateur en vol en solo sur Alpha Jet.
Qu'est-ce que ça veut dire, présentateur en vol?
Lors des meetings, par exemple. Donc, c'est un exercice délicat où on fait des pirouettes, mais au ras du sol, quoi. Donc voilà, comme ça, je suis parti à Dubaï, je suis parti à Ankara, même à Bagdad avant que ça tourne mal. Voilà. Donc, j'ai fait des présentations en vol sur Alpha Jet. C'était impressionnant.
On a un peu de mal, nous, qui connaissons pas cet univers, à comprendre un peu ce que vous avez vécu. Est-ce que c'est un peu comme dans les films? Est-ce que c'est un peu comme Top Gun, par exemple?
Alors Top Gun, oui, mais ça c'était le début. Top Gun, maintenant, c'est dépassé. Les combats sont moins esthétiques. Tout se passe plus à longue distance maintenant. Là, je parle uniquement des combats aériens, parce que c'était mon rôle, j'étais en défense aérienne. Après, le problème, c'est que au bout d'un certain temps, on quitte le côté purement opérationnel pour passer au niveau commandement. Et donc, on continue à piloter, mais on pilote beaucoup moins et on ne va pas au combat aux commandes d'un avion. Donc c'est pour ça que déjà Top Gun, voir un capitaine de vaisseau
dans l'avion, c'est pas tout à fait comme ça.
C'est pour
ça
le fun. Voilà.
Très vite, quand vous êtes rentré dans l'école de l'armée de l'air, on vous a rangé du côté des calotins. Les calotins, qu'est-ce que c'est?
Oui, ce sont ceux qui croient. Donc, ce sont les croyants. Donc parce que il y a toujours une il y a une aumônerie et donc on voyait le fait de s'inscrire à l'aumônerie déjà et ben on est marqué dit ah ben ça c'est les cathos de service quoi donc voilà.
Est-ce que proportionnellement les militaires sont aussi croyants?
Alors ça dépend des armes. Donc l'armée de l'air est réputée pour être moins croyante que les autres.
Pourtant plus proche du ciel quand même.
Oui. J'en sais pas. Oui. Donc ça dépend entre les marins, les terriens, les aviateurs, ils sont. Donc peut-être qu'il y en a plus chez les terriens. Et puis il y a un respect. En tout cas là, par exemple, je retrouve souvent des camarades de promotion. Donc à chaque fois qu'il y a une rencontre, c'est un week-end, il y a une messe. Et là, il y a 100% des participants, ceux qui ne croient ou qui ne croient pas, et qui participent à cette messe. Et puis mon camarade en profite pour y aller franco. Il va pas édulcorer l'annonce de l'évangile, donc il y va franco.
Livre franco et chacun recevra comme il pourra.
Voilà. Mais il y a un grand respect. Il y a un grand respect.
Est-ce qu'on est différent quand on est un pilote croyant ou un pilote chrétien?
Du point de vue habileté, je ne pense pas. Mais pour moi, ça a eu quand même une importance, notamment quand j'étais commandant d'escadre, donc quand j'avais la responsabilité de 4 escadrons, 3 en métropole et 1 à Djibouti. Et j'avais la possibilité de commencer ma journée par aller à la messe à 7h du matin avant d'aller au travail. Et pour moi, c'était important de remettre tout ça dans les mains du Seigneur et puis peut-être de demander sa protection. Et puis, il y avait toujours la crainte de perdre un homme en vol. Maintenant, on en perd beaucoup moins, mais quand je suis rentré dans l'armée de l'air, on perdait 15 pilotes par an. Ce qui est énorme. Maintenant, on en perd un tous les 3 ans. Donc,
vous n'avez perdu personne à l'entraînement?
Non. Pourtant, il y a eu j'ai perdu des avions, des accidents qui auraient dû se terminer par une perte humaine et qui ne sont pas terminés par une perte humaine.
Peut-être une aide divine, alors?
Peut-être. Et ça, personne ne pourra le savoir.
Non.
Quelquefois, devant le spectacle qu'on a, on est quand même saisi et on a des mouvements comme ça, pas mystiques, mais on est impressionné. Il dit waouh, je suis en train de caresser le visage de Dieu. Là. Enfin, pas tout à fait, mais presque. Et puis je me souviens des vols de nuit au Canada avec les aurores boréales. J'étais fasciné. Et donc oui, il y a des choses il y a une beauté qu'on ressent. Mais la crainte, non. La crainte, on peut l'avoir a posteriori.
Il vaut mieux d'ailleurs, peut-être.
Oui, peut-être.
Vous avez choisi une première pause musicale, du coup. Ne crains pas, je suis ton Dieu.
Ne crains pas, je suis ton Dieu. C'est moi qui t'ai choisi, appelé à ton nom. Je te soutiendrai, sois mon élu, que défaite mon âme, je mettrai en toi mon esprit, je te comblerai de mon esprit. Ne crains pas, je suis ton Dieu, c'est moi qui choisi et appelé par ton nom, tu as les prières.
Toujours sur RCF, en compagnie de Philippe Levert qui nous raconte son parcours. Alors, en vous entendant, on se dit, la vie a été bien remplie. Philippe Levert n'a pas eu le temps de fonder une famille, peut-être, alors que si. Si, puisque très jeune, vous vous êtes marié, vous aviez 22 ans.
Voilà. Oui, donc je me suis marié très jeune, effectivement. Il y a une femme formidable, mais elle avait des problèmes de santé. On est resté marié 44 ans avant qu'elle décède en fin de l'année 2020. Elle a dû subir quelques 19 hospitalisations pendant ces 44 ans. Elle a subi 17 opérations, dont des majeures, dont 4 opérations à cœur ouvert, par exemple.
Donc, c'est des problèmes cardiaques?
Des problèmes cardiaques, oui, qu'elle avait depuis tout jeune. Et d'ailleurs, mon père m'avait dit, mais tu peux pas te marier avec elle. Regarde, elle a des problèmes de santé. Il dit, oui, mais moi, je l'aime. Alors, avec qui elle va se marier? C'est avec quelqu'un qu'elle n'aime pas. Donc,
Était convaincu.
Oui. Donc, mais c'était peut-être de son devoir de m'avertir que ça serait pas forcément une vie facile de se marier avec quelqu'un qui avait des problèmes de santé. Mais c'est bien de se marier en connaissance de cause, en toute liberté. C'est important.
Vous avez un premier enfant qui décède aussi très vite.
Oui. Donc ça a été une grosse épreuve. Donc très peu de temps. Donc on a attendu un enfant très tôt. Il est né prématuré à Salon de Provence, où il y avait, dans un hôpital qui n'était pas équipé. Et puis donc il a été transféré à Marseille, et c'est à Marseille qu'il est décédé.
Une épreuve comme ça, est-ce que ça rapproche de la foi, ça éloigne de la foi, ça crée des doutes? Comment vous l'avez vécu avec votre épouse?
En tout cas, ça a été l'objet d'un combat. Je revois encore cette église à Salon de Provence, où je suis resté 3 heures. 3 heures à me battre un petit peu, à savoir si j'allais continuer à croire, pas continuer à croire. Et là, le Seigneur, il était quand même un peu dur avec moi. D'accord, on était croyants, on avait décidé de baser notre mariage sur le Christ. Et puis, ce que j'ai reçu pendant ce temps-là, c'est dit, mais avant, quand tout allait bien, tu voyais bien que il y avait des gens qui souffraient, qu'il y avait des enfants qui mouraient, etc. Et ça t'empêchait pas de croire. Et maintenant que ça t'arrive à trois, tu veux arrêter de croire. Donc ça a été quand même. Je sais pas si j'oserais dire ça à quelqu'un qui vient de perdre son enfant, quoi. Et donc c'est ce qui m'a été donné. Et du coup, ça a été quand même une grosse décision dans ma vie de continuer ce que j'appelle à croire dans les ténèbres ce que j'avais reçu dans la lumière.
Fabienne arrive 2-3 ans après.
Fabienne arrive 3 ans après. Donc le cardiologue de mon épouse disait, ouh là là, elle a dit oui, d'accord, vous pouvez avoir un autre enfant. Donc elle est arrêtée. Donc elle a passé d'ailleurs sa grossesse allongée. Donc elle arrive, et puis ça a été un grand bonheur de l'avoir. Mais après, il y a eu d'autres opérations et on n'a pas pu avoir d'autres enfants.
Alors on peut dire qu'ils sont arrivés un peu plus tard, parce que Fabienne, vous avez 7 petits-enfants, c'est ça?
Voilà, 7 petits-enfants. Ma fille s'est mariée aussi assez jeune, de 5 ans à 20 ans. Donc c'est un véritable régal.
Et qui demande à papy comment c'est d'être pilote de chasse?
Oui, en fait, je suis assez déçu parce qu'il y a personne qui a suivi. Mais voilà, donc mais ils sont heureux et puis.
Combien de filles, combien de garçons?
Donc ça a commencé par 5 garçons et heureusement ça a terminé par deux petites filles qui sont adorables.
Depuis le début, je l'ai pas redit, mais vous vous destinez à devenir prêtre, Philippe Levert. Comment aujourd'hui on peut être ingénieur, pilote de chasse, marié, veuf, diacre, prêtre à 70 ans?
Ça m'est tombé dessus parce que c'était pas calculé du tout, forcément. C'est sûr que il y a peut-être une préparation, parce que lors de l'annonce de la quatrième opération du cœur de mon épouse, on savait qu'il y avait moins de 50% de chances de réussite. Et puis donc, il y a eu toute cette période un petit peu de révolte et de cheminement ensemble pour venir à accepter ce que serait la volonté du Seigneur, quelle que soit l'issue. Voilà. Et donc, il y a eu 9 mois comme ça de travail intense. Donc, on a été, peut-être que le cœur a été préparé. Et même aussi, j'avais pris l'habitude, donc quelques 3 mois avant la date fatidique, de me retrouver dans mon oratoire de la nuit, quand je me lève, je vais à l'oratoire.
Vous avez un oratoire vous, familial.
Voilà, on a un oratoire familial.
Pour préciser, pour les personnes qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est qu'un oratoire.
Un lieu aménagé pour prier.
Pour prier,
voilà.
Il est à quel endroit dans votre maison?
Dans le grenier, on a aménagé une place, donc on a une grande pièce qui heureusement qu'elle est grande, parce que quand on se retrouve toute la famille pour prier, on est bien content qu'elle soit grande avec toute la smala des 9 petits enfants.
Donc cette nuit-là, vous levez aussi pour cet oratoire.
Alors, à partir du mois de septembre, toutes les nuits, je me suis levé. Et ça a continué même après.
Vous réveillez ou vous ne dormez pas?
Je laisse l'ange gardien me réveiller et j'arrive à la prière de manière disponible et pas complètement complètement endormi. Donc c'est une prière plus facile. Et puis la prière de nuit, elle est différente de la prière de jour. Je ne sais pas pourquoi, mais elle est différente parce que j'en sais rien.
Ça passe mieux, ça capte mieux.
Ça capte mieux. J'en sais rien du tout. Mais elle est différente. Donc je conseille à ceux qui ont des insomnies, si vous avez une insomnie, levez-vous, allez, faites un oratoire et allez prier, vous verrez, c'est chouette. Et donc, mais après, pour répondre à la première question, comment on se décide à prendre ce chemin, c'est quand même pas logique. Donc je venais d'enterrer mon épouse. Un mois après, mon gendre me dit, tiens, on fait une retraite, c'est une retraite de Saint-Ignace, est-ce que vous voulez venir? D'accord. Et puis c'est là que, pendant cette retraite, j'ai une perception beaucoup plus aiguë de l'amour de Dieu pour moi et pour l'humanité, avec une intensité différente. Et juste à la dernière seconde, j'ai posé la question au prêtre accompagnateur, est-ce que, voilà ce qui m'arrive, est-ce que c'est complètement stupide, vu mon âge, d'imaginer ce chemin, ou est-ce que j'en parle à mon évêque? Et lui, il dit, et donc il a pris le temps, et il m'a dit, si, parlez-en à votre évêque. Et donc c'est comme ça, après j'en ai parlé à Monseigneur Michel, c'était lui l'évêque à l'époque, et le cheminement a commencé. Et encore 9 mois après, et je commençais ma formation à la Cato de Lyon.
Philippe Levert, quand on a perdu comme vous cet enfant, perdu ensuite votre femme, avec une vie heureuse, avec le Christ au milieu, avec un oratoire familial à la maison, avec une transmission de foi que vous avez reçue et que vous avez transmise aussi, est-ce qu'il n'y a pas un moment où on se dit quand même Dieu est un petit peu dur avec moi? Et au contraire, vous allez vers une ordination presbytérale.
Il y a eu des tonnes de grâces pendant ce cheminement, donc je pourrais pas les dire ici. Et puis après, tous les signes qui sont donnés sont valables pour la personne à qui elles sont données. Elles sont pas transposables. Et puis seule la personne qui les reçoit peut dire oui, ça c'est une grâce, ça vient du Seigneur.
Il s'est passé des choses à Lourdes, en tout cas, on peut le dire, par exemple.
Oui, il s'est passé beaucoup de choses de toute manière dans mon oratoire. Après, il y a eu des kilos de larmes de reversées. Mais j'en étais même revenu à un moment donné à remercier le Seigneur pour la manière dont il nous a fait vivre cette épreuve terrible de la perte de mon épouse. Donc arriver à dire merci alors qu'il vient de me prendre avec des choses qui sont terribles, le Seigneur est capable de retourner les choses. Je sais pas comment expliquer, mais d'ailleurs il l'a bien fait avec la croix. C'est étonnant. D'un instrument de malédiction, il a fait un instrument de bénédiction. On bénit avec une croix. Mais attendez, regardez bien, c'est quand même. On n'allait pas bénir avec une guillotine. Non, vous bénissez avec une croix.
Une chanson que vous avez apportée aussi, cette seconde pause musicale. Écoute, entends la voix de Dieu. Cette chanson aussi est importante pour vous et pour Christine, puisque vous la chantiez ensemble.
Voilà, on l'a chantée ensemble, et puis. Comme la mort a toujours été proche dans toute notre vie, on savait pas qui allait le partir le premier, moi dans un accident d'avion ou bien elle de ses maladies. Elle me disait, le jour de mon enterrement, j'aimerais bien que ce chant apparaisse. Donc pendant ses funérailles, on a chanté ce chant, Écoute la voix de Dieu, oui, qui me parle beaucoup, mais qui parlait beaucoup à mon épouse et par ricochet à moi.
Que c'est
Toujours dans cette émission sur RCF, en compagnie de Philippe Levert, qui a été ingénieur, pilote de chasse, beaucoup d'épreuves familiales avec la perte d'un enfant au tout début de son mariage, alors qu'il avait 22 ans, puis la perte de sa femme qui avait une santé fragile, un oratoire familial dans lequel vous alliez prier tous les soirs. Vous nous avez aussi expliqué que malgré le fait que le Seigneur vous ait pris, entre guillemets, votre Christine, votre enfant et toutes ces épreuves, eh bien, plutôt que d'arrêter de croire, vous avez continué à croire à un moment donné dans les ténèbres ce que vous aviez appris dans la lumière. Et puis même cela s'était transformé même en quelque chose de positif. Et aujourd'hui, vous vous dirigez vers une ordination presbytérale, ce qui est quand même assez rare et probablement assez méconnu. On ignore peut-être que quelqu'un qui est veuf peut devenir diacre, puis prêtre, en 2025. Est-ce que vous avez l'impression, à 70 ans, de commencer encore une nouvelle vie, une nouvelle page ?
Ah oui, complètement, complètement. Et puis là, déjà avec l'ordination diaconale, il y a un gros saut qui se fait, parce qu'on commence par être diacre, et puis c'est important que le prêtre commence à être diacre, qu'il soit... J'avais vu un titre qui m'avait bien plu, c'était « Prêtre à l'école du lavement des pieds ». Et donc, voilà, c'est important, à mon avis. Puis la pédagogie de l'Église a trouvé ça, c'est qu'il y a un sens. C'est une troisième mission. Ma vie conjugale a été super importante pour moi. Ma vie aussi, comme militaire, qui était une vie de service, a été importante, mais elle s'est arrêtée. Et puis là, c'est une troisième vie qui commence, mais qui, elle, c'est parti pour l'éternité. Ce que je disais à certains camarades de promo, qui me disent « Mais pourquoi tu veux te faire prêtre ?» Je dis « Attention, déjà on ne se fait pas prêtre. » Mais pour moi, cette troisième étape, elle est presque plus importante que les deux précédentes, et pourtant qui représentaient toute ma vie. Pilote de chasse, c'était mon rêve de jeunesse, et puis ça a été extraordinaire. Et puis la vie avec mon épouse, elle a été extraordinaire aussi. Et pourtant... cet appel me semble plus fort que les deux appels précédents.
Pour les séminaristes, entre guillemets, classiques, entre le moment où ils deviennent diacre et puis ensuite prêtre, souvent, entre le moment où ils sont séminaristes puis prêtre, il se passe quand même quelques années. Les années de discernement, des années de... voilà. Vous allez être donc... vous êtes diacre en 2024 et puis prêtre en 2025. Est-ce que vous avez l'impression que votre parcours a aussi été un chemin de discernement qui finalement vous amène là ?
Ah oui, le discernement, il a été constant depuis le moment où je me suis posé la question, et il s'est affiné, à chaque fois, avec des petites touches.
Il y a des moments de doute, des fois,
Des moments de doute.
Qu'est-ce qui peut vous faire douter quand...
Déjà, je me souviens d'un moment toujours à l'oratoire où je dis, mais Seigneur, est-ce que je serai à la hauteur ? Et puis immédiatement, j'entends cette réponse, c'est pas une réponse qui résonne dans le ciel, c'est plus intérieurement, où j'ai, mais moi, je serai à la hauteur. Donc, ah oui, c'est vrai, c'est pas moi qui est aux manœuvres, c'est toi, d'accord.
Alors quand on demande à quelqu'un de devenir diacre, souvent, on demande l'accord de son épouse aussi, puisque c'est ça le diaconat. Est-ce que vous, Fabienne, et les petits-enfants, vous leur en avez parlé ? Est-ce que vous en avez discuté en famille ?
Ah oui, bien sûr. Mais déjà avec...
Papy va devenir prêtre, c'est voilà. Quand même assez étonnant comme situation.
Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est important. Enfin, mais moi j'ai eu de la chance déjà ma fille donc est croyante, et puis elle m'a beaucoup accompagné et accompagné mon épouse dans les derniers instants. Et on a vécu ces derniers instants ensemble, et donc elle a été très présente et... Voilà, et puis elle a toujours bien accepté, et surtout elle a été d'excellents conseils. Et après, Monseigneur Michel lui-même a posé la question et à ma fille et à mes petits-enfants pour savoir exactement comment ils vivaient ça, en me confiant que si jamais il y avait eu un problème majeur, eh ben ils disaient non pour le sacerdoce.
Et alors les petits-enfants ont tous dit super ?
Oui. Donc, il était bien. Donc, c'était quand même amusant parce que le fils aîné dit « Ah oui, mais je sais pas si j'irai me confesser à grand-père. » Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que normalement, on demande plutôt de ne pas le faire.
Oui.
Parce qu'il faut bien qu'ils aient une belle liberté et puis qu'il n'y ait pas de pression extérieure pour un sacrement quel qu'il soit.
Est-ce que vous diriez que, avec l'ouverture de ce nouveau chapitre et votre expérience, notamment l'expérience du deuil et de la traversée des épreuves que vous avez eu à vivre pendant vos premiers chapitres, est-ce que ces expériences-là vont vous aider, vous, à faire traverser ces épreuves-là à d'autres personnes qui les vivent tous les jours ?
Alors peut-être, ça peut être aussi à double tranchant, parce que J'ai surmonté certaines choses. Il ne faut pas non plus que je dise, ben, c'est simple, t'as qu'à surmonter comme moi. Donc, parce que c'est, chacun a sa manière de vivre les épreuves qui lui sont données. Mais, déjà, je me suis rendu compte au cours du, justement, du discernement dont on parlait, que je me suis arrêté de me mettre à imaginer ce que je pourrais faire ceci ou cela en fonction de mon expérience ou de ce que je crois être mes compétences, et que j'étais plus maintenant à être dans l'abandon de ce que le Seigneur voudra pour moi. Donc, quelquefois, il a des drôles de manière de faire, le Seigneur. Il prend pas forcément, par exemple, ses apôtres. On pourrait dire, ben, en fait, le casting, je sais pas si c'est un bon casting, parce que qu'est-ce que tu vas prendre des pêcheurs de... Les compétences, c'est autre chose. C'est autre chose. Et puis, la fameuse question du Christ sur le lac de Tibériade après la résurrection, au lieu de dire, tiens, Pierre, est-ce que tu es bon en management? Est-ce que tu es bon? Non, il va dire, est-ce que tu m'aimes? Donc, ça sera peut-être plutôt sur ce registre-là qu'il faudra faire attention. Est-ce que je suis dans l'amour ou pas?
Pour terminer cette émission, Philippe Levert, qu'est-ce qui fait que, eh bien, vous allez encore, là, ouvrir un autre chapitre? Qu'est-ce qui fait que chaque matin, vous allez vous réveiller avec vos 70 ans et votre agenda qui va se remplir de plus en plus dans les jours qui vont arriver, avec la même envie?
Déjà, ce que je ressens ici pendant cette année d'insertion, parce que je suis inséré à la paroisse Saint-Émilien de Valence, ce qui me donne, ben, c'est peut-être l'Eucharistie de tous les jours, c'est la prière aussi. Et j'ai découvert, par exemple, l'importance de la prière des autres. C'est-à-dire que je voyais, quand j'étais logé au séminaire pendant le jeudi, je voyais, par exemple, les séminaristes prier. Ou alors, à l'Hyper, à Lyon, on avait là une messe, et je voyais des petites religieuses prier. Et j'étais impressionné par leur prière, et je me dis, mais leur prière... qu'est-ce qu'elle me fait plaisir? Je ne sais pas pourquoi, c'est pas moi qui prie, c'est elle qui prie. Mais j'avais l'impression que ce qui se passait entre ces personnes, donc ces séminaristes ou ces religieuses, et leur bon Dieu, eh ben, ça faisait partie d'un bien commun de toute l'Église, et que j'en tirais un grand bénéfice. On n'est pas sauvé tout seul, on est sauvé ensemble. Dieu sauve en rassemblant.
Philippe Levert, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous pour nous partager ce beau parcours.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Ensuite, c'est le téléphone du dimanche. Des familles de détenus qui font parvenir des messages de soutien à des prisonniers.
Pour un autre regard sur la prison, votre émission Le téléphone du dimanche, c'est dans un instant.
Le week-end sur RCF, la joie se partage.
Les trésors de la francophonie s'écoutent chaque week-end dans Microphone francophone. Erika Leclerc-Marceau et Martin Ferron vous font découvrir les initiatives positives et durables, mais aussi des univers artistiques et musicaux singuliers aux quatre coins du monde. Microphone francophone, c'est ce dimanche à 12h45 sur RCF.
Chaque dimanche, un prêtre vous répond sur RCF. Une émission qui permet à tous les auditeurs d'avoir une écoute et la possibilité de parler à un prêtre. Un temps précieux pour celles et ceux qui sont ou se sentent isolés. Un prêtre vous répond, c'est chaque dimanche à 21h sur RCF. Le téléphone du dimanche, une émission animée par Catherine Ségouffin.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le téléphone du dimanche. Un proche en prison et le regard des autres accuse aussi les familles. Leur emploi du temps est contrarié. Il faut tenir malgré tout, pour soi comme pour celui qui est en prison. À réimage, la pièce ressemble à une vaste antichambre. Quelques individus, seuls ou accompagnés d'enfants, attendent. Nous sommes dans un centre d'accueil rattaché à la prison. Tous les samedis, des proches de détenus attendent pour un rendez-vous au parloir. Quand ils arrivent la première fois, ils sont angoissés, explique la présidente. L'idée de retrouver un fils ou un conjoint derrière les barreaux les panique. Ils ont besoin d'être reçus, écoutés et conseillés. Pour eux aussi, la vie a basculé.
Le téléphone du dimanche, Catherine Ségouffin.
On écoute les messages d'Élodie pour sa sœur et d'Alain pour sa fille.
Salam, ma sœur, Mimi, Jenny, sa sœur, c'est Élodie. Je suis un peu émue. On a reçu ta lettre aujourd'hui. Quel plaisir de te lire, ma sœur. Tu nous manques beaucoup, mais super ravie d'avoir pu dire que tu allais bien. On est tous derrière toi, tu le sais. Mange pas trop de M&M's quand même. Non, je rigole. Profite avec plaisir. Et puis, on te réécrit aujourd'hui. Je t'aime, ma sœur. Prends soin de toi. Et vive à l'Algérie. Je t'aime, bisous.
C'est Alain pour Jennifer. Je voulais lui faire passer un message. Je voulais dire que je t'aimais très fort et que j'ai bien vu que tu te battais. C'est très bien, ma fille. C'est très, très bien. J'en suis très heureux. Je voulais dire qu'il ne fallait pas t'inquiéter pour nous, que nous, on sera toujours là pour toi et qu'on fait tout pour toi. Donc voilà, occupe-toi de toi. Je te fais des gros bisous, aussi fort que je t'aime. Et je te dis à bientôt, ma chérie. Au revoir. Bisous, bisous.
Les messages qui suivent sont de la part de Ekis, de la famille de Jenny, Sofiane, Naïm, Mehdi et Nina. Et puis le message de Sophie.
Oui, bonjour. C'est un message pour Sandra, qui est à Caen de la part d'Ekis. Sandra, coucou. Je te fais un petit message rapido. J'espère que tu as eu celui de la semaine dernière. Je sais pas si il y a assez de place dans la radio, mais il est trop court cette émission. Comment tu vas? Bon, en vrai, je viens de t'envoyer la lettre. Je t'ai envoyé hier, avant-hier, la lettre avec le bouquin. Parce que j'ai eu un petit souci avec la poste, petite prise de tête avec les postiers, je te raconterai. Pas très intéressant, mais voilà. Et du coup, ça a un peu plus tardé, mais surtout, j'ai dû commander le bouquin parce qu'il l'avait pas. Donc voilà, il devrait arriver, là, dans quelques jours, quoi. J'espère que c'est celui que tu pensais, j'espère que tu vas l'aimer, j'espère surtout que tu vas bien. Et écoute, peut-être que nos lettres se croisent ou quoi, en tout cas j'attends tes news quand t'as envie, quand tu peux. Je serais ravie de t'entendre et en attendant, je te fais des énormes bisous. Prends soin de toi, plein de force. Et on profite pour que ça soit un petit bonjour aux personnes qui sont dans le coin et qui écoutent. Je t'embrasse tout fort. À tout vite.
Salut Jenny, je suis avec les enfants, on te fait de gros bisous, on te souhaite bon courage.
Coucou, c'est Sofiane, on t'aime, gros bisous.
Coucou, c'est Anissa, je t'aime.
Coucou, c'est Naïm, on t'aime, tu nous manques, bisous.
Coucou, c'est Médis, j'espère que ça va, bisous.
Salut, c'est Lila, comment tu vas, bisous.
On te souhaite plein de courage, bisous.
Au revoir. Bonjour, c'est un message pour Blanche qui est à Caen. Alors, c'est Sophie. Écoute, j'espère que tu vas bien. J'espère que cette fois-ci, le message, il passera parce que tu me disais que la dernière fois, il n'était pas passé. Dommage. Peut-être c'était trop long, je sais pas. Mais bon, c'est vrai que c'est mieux de passer les messages que la musique. Mais bon, c'est comme ça. Hein. J'espère que tu vas bien. Et écoute, pour la rediffusion... l'émission de radio, c'est pas gagné. Alors, voilà. Non, c'est en stand-by, comme on dit. Écoute, nous, on t'envoie plein de force d'ici et, gros bisous. Et puis, en tout cas, le bonjour à toutes les personnes qui sont enfermées. Allez, bye bye, ciao.
Chaque séparation est une chance de vous rapprocher encore plus de quelqu'un qui devrait encore compter plus que n'importe qui d'autre, vous. Stéphane Ovona, footballeur franco-ivoirien. Restez avec nous, le téléphone du dimanche continue avec les messages de Lilo, Mayo, Iliès, Sohan et Yasmine dans un instant.
Pour nous laisser un message, appelez le 04 28 29 04 17, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Bonjour, c'est Lilo. J'aimerais parler à ma tata Émilie de la prison de Rouen. Coucou ma tata Émilie, un petit coucou, je pense tous les jours à toi. Je vais t'envoyer un dessin rien que pour toi. Tu me manques beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai fait un dessin à ma maîtresse et même un poème. Je t'en ferai un à toi aussi. Tu es ma tata préférée et je t'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Maman te fait un gros bisou et aussi pour mon tonton. Et tonton Cédric, tu me manques et je t'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi. Ta petite Marie-Leur.
Alors, c'est pour laisser un message à mon cousin qui est au star. Donc, à Vesoul, quoi. Alors, c'est Mayo. Je pense à lui. Et j'espère que qu'il va bien. Et puis, qu'il garde le moral, quoi. Merci, au revoir.
Coucou, tata, c'est Iliès. Je voulais te dire pour voir si ça se passait bien, parce qu'on a dit dans la lettre. Et, promis que je te ferai la célébration, tata. Bisous, au revoir.
Bonjour tata, j'espère que tu vas bien. C'est Sohan et je te fais des gros bisous. Et merci et au revoir. Et pour ta lettre.
Oui, salam mon père, est-ce que tu me reconnais? C'est ta fille Yasmine. Bah écoute, nous ça va. On espère que toi ça va. Et puis la présence est dure, mais la sortie c'est sûr. On a eu ta mère au téléphone, tout va bien. Le bled ça va, alhamdoulilah. Bon courage, hein.
Sois toujours comme la mer qui, se brisant contre les rochers, trouve toujours la force de recommencer. Jim Morrison. Un grand merci à Elodie, Alain, Ekis, la famille d'Eugénie, Sophie, Lilo, Mayo, Iliès, Sohan et Yasmine. La boîte vocale au 04 28 29 04 17 reste à votre disposition si vous souhaitez enregistrer un message à l'attention d'un proche en détention. Vous pouvez aussi nous envoyer un email à cette adresse.
Le téléphone du dimanche. Pour nous laisser un message, envoyez un email à letelephonedudimanche@rcf.fr.
Le voile noir, c'est celui qu'Annie Dupéret a inconsciemment jeté sur ses souvenirs à l'âge de 8 ans, suite au décès de ses parents. C'est elle qui les trouvera inanimés dans la salle de bain, victime des émanations toxiques d'un chauffe-eau. Elle a écrit « Le voile noir » à partir de photos retrouvées au fond d'un grenier, comme pour exorciser cette souffrance contenue pendant des années. Oh, une réminiscence! Un vague, très vague souvenir d'une sensation d'enfance. Les maillots de bain tricotés main qui grattent partout lorsqu'ils sont mouillés. Ce n'est pas le plus agréable des souvenirs, mais c'en est au moins un. Je suis frappée de constater en regardant ces photos que tous les vêtements que nous portons, ma mère et moi, étaient faits maison. Tous, y compris les maillots de bain. Que d'attention, que d'heures de travail pour me vêtir, que d'amour dans les mains qui prenaient les mesures et tricotait sans relâche. Ce qui me fascine sur cette photo et m'émeut aux larmes, c'est la main de mon père posée sur ma jambe. La manière si tendre dont elle entoure mon genou et ma petite main abandonnée sur son cou. Après la photo, il a dû me faire descendre du bateau en disant « Hop là !» comme le font tous les pères en portant leur enfant dans les bras pour sauter un obstacle. Nous avons dû rejoindre gaiement ma mère et marcher, tous les trois, sur la plage. J'ai dû vivre cela. Oui. Entre mes deux parents, à moi, si naturellement et si complètement, pour quelque temps encore, j'ai dû me plaindre des coquillages qui piquent les pieds, comme le font tous les enfants, ignorants de leur richesse. « C'est ainsi que se termine le téléphone du dimanche de ce premier dimanche de l'Avent. De très nombreux messages sont arrivés dans la boîte vocale de l'émission au 04 28 29 04 17 cette semaine. On garde précieusement les messages de la famille d'Aurélie, de Raphaël, de Cédric, Geneviève, Linda et Christine qui n'ont pas pu être écoutés aujourd'hui et qu'on écoutera en priorité dimanche prochain à 12h30. Merci Antoine à la technique, merci à tous pour votre écoute et haut les cœurs.
Retrouvons Paroles inattendues, un programme diffusé chaque dimanche sur France 2 dans l'émission Le Jour du Seigneur. Une production du CFRT par Frédéric Fauré et David Mia.
Cette semaine, Paroles inattendues reçoit Patrick Montel.
Bonjour, je vais au lycée Louise Michel à Champigny. Cette notion de signe qui nous rattache en même temps à l'humanité et en même temps nous en éloigne parce que les étoiles, le soleil, la lune, ça fait partie du cosmos évidemment, mais ça fait aussi partie de notre imaginaire. Et je pense qu'on a besoin, de temps en temps de se réfugier dans l'imaginaire, d'échapper un peu aux affres du quotidien et que ces signes-là, si on les cherche, eh bien, on les trouve et la plupart du temps, ils nous réconfortent. Et c'est pour ça que cette phrase-là m'a touché. J'ai perdu beaucoup de monde en cours de route, c'est normal quand on vieillit, mais je les ai perdus assez jeunes. Et notamment mon ami, le seul que j'ai jamais eu, qui s'appelle Dominique Duvauchel, et que j'ai perdu en 1982 au mois de mars. Et puis très souvent, j'ai eu l'impression qu'il m'envoyait des signes. Et ça m'a réconforté. J'ai eu l'impression que quelque part, il ne restait pas très loin de moi. J'ai la faiblesse de croire qu'on peut continuer à être en rapport avec des personnes disparues à condition de leur accorder un moment. Et moi, ce moment-là, je lui accorde quasiment tous les jours de ma vie. Donc je pense qu'il est très présent en moi, oui. J'ai une passion qui est chevillée au corps, qui est la passion du commentaire, mais pour raconter les histoires des gens que je rencontre, parce que je pense que ces histoires-là sont belles et méritent d'être racontées. Donc c'est ça qui me donne de la pêche au quotidien, c'est de rencontrer des gens et puis de raconter leur histoire avec passion. Voilà. Et la passion n'a pas d'âge. Donc moi, je suis de ce côté-là, je suis éternellement jeune. Bah, on arrive au lycée Louise Michel. C'est là que j'ai rencontré Dominique à la rentrée 1967. Ça a été le coup de foudre et ça s'est jamais atténué. Merci à vous. Bonne journée, bon dimanche.
Retrouvez Paroles inattendues sur France.tv et chaque dimanche sur France 2.
Microphone francophone.
Remusicaliser le monde.
Une création radio de Martin Ferron.
Au micro, Erika Leclerc-Marceau
et Martin Ferron.
Le fil rouge de ce numéro, partager nos parts d'étoiles.
Remusicaliser le monde. Création,
sens,
travail social, intendance, nature.
Par Martin Ferron.
Piano, violon, viendra.
de beauté, cieux d'été.
Microphone francophone.
Parmi le foisonnement de collectifs citoyens qui remusicalisent le monde, il y a Polynice. Polynice lutte pour la pérennité des insectes pollinisateurs, la biodiversité et pour une agriculture pérenne et alternative. Polynice se bat notamment pour stopper l'agrochimie et les insecticides tueurs d'abeilles et générateurs de cancers, dominés par des multinationales qui investissent parallèlement dans le marché du médicament. L'association travaille aussi à restaurer un environnement riche et sain pour les pollinisateurs sauvages. Elle s'oppose à la monoculture, à la destruction des haies et à l'artificialisation des sols liés à nos commerces, industries et maisons qui détruisent le gîte et le couvert des pollinisateurs. Ce type d'action citoyenne est essentiel car le déclin accéléré des pollinisateurs est une grave menace pour notre survie. En effet, l'ONU rappelle que sur les 100 espèces végétales qui fournissent 90% de la nourriture dans le monde, plus de 70% dépendent des abeilles pour leur pollinisation. Les pollinisateurs sont généreux pour l'humanité. On ne peut vivre sans eux. Polynice dépend exclusivement des particuliers et n'accepte aucun financement d'entreprises, d'institutions, de partis ou d'organisations. Ce choix assure une liberté de parole et d'action totale. Polynice produit des études qui analysent les politiques publiques et permettent de formuler des propositions. L'ONG mène aussi des campagnes de mobilisation citoyenne, notamment par le biais de pétitions, et fait du contre-lobbying pour porter les revendications des citoyens et ne pas laisser toute la place aux lobbies qui dominent les champs médiatiques, économiques et juridiques. Polynice défend les petits apiculteurs pérennes, jamais la grande industrie poussée à la fois par l'agro-industrie, l'État et certains syndicats. Polynice accompagne aussi des projets agricoles innovants. Citons la solution naturelle contre le frelon asiatique, une espèce invasive accidentellement importée dans le cadre de la mondialisation économique et responsable de la mort de millions de pollinisateurs. Cette solution, ainsi que son application SEUR, qui permet de géolocaliser et de signaler les nids, sont des instruments simples, efficaces, respectueux de la nature et du bien commun. Polynice dérange beaucoup d'intérêts et subit des attaques violentes sur Internet et dans les médias, car les combats de l'association, notamment pour l'interdiction de certains pesticides, rencontrent un réel succès. Les attaques viennent de lobbies, de communicants, de sites et de médias, travaillant officiellement ou non, pour les intérêts de l'agrochimie, du privé ou de politiques et syndicats productivistes, où l'économie et l'emploi semblent plus importants que la pérennité du monde ou le bien commun. Plusieurs médias de masse réputés sérieux ont relayé des rumeurs infondées et malveillantes sans chercher ni à les vérifier, ni à contacter Polinis. Même l'association de consommateurs Que Choisir a été bernée par ces mensonges et a été condamnée pour diffamation suite à son article « Les belles causes font les beaux profits ». Contrairement aux géants du web, Polinis n'échange ou ne vend jamais les données personnelles de ses sympathisants, alors même que cette pratique légale est légion, sans parler des algorithmes et de traçage numérique.
Polinis porte la première action en justice contre un État pour ne pas avoir fait tout ce qui était en son pouvoir pour empêcher la destruction en cours du vivant.
Dans un contexte où la crise Covid et l'effondrement de la biodiversité se combinent, Polinis a lancé une action en justice contre l'État français pour manquement à ses obligations de protection de la biodiversité. L'action vise notamment les défaillances notoires du processus d'autorisation et de mise sur le marché de certaines molécules et pesticides, cause majeure du déclin massif de la biodiversité. Par son ampleur et sa visée, ce recours constitue une première. C'est en effet la première action en justice citoyenne dans le monde pour la biodiversité. Polinis, ou la nécessité de collectifs citoyens indépendants, courageux et œuvrant au bien commun pour remusicaliser et pérenniser le monde. Se mettre ensemble pour remusicaliser le monde. Des collectifs qui cherchent et qui libèrent le réel et les imaginaires. Des ensembles qui engagent les puissances agissantes de chacun. Des orchestres qui donnent naissance à de nouveaux liens entre individus. Et un jour, une fête universelle.
Pièce collective a été orchestrée autour du musicien camerounais Manu Dibango.
Microphone francophone.
Culture de sens. Culture de sens. Culture de sens.
Il y a encore peu de femmes chefs d'orchestre de par le monde. À peine plus de 5% des orchestres symphoniques sont dirigés par des femmes. Le mouvement des femmes chefs d'orchestre a publié un manifeste en faveur de l'égalité. Ce collectif a pour but de créer un espace de réflexion qui renouvelle les pratiques. C'est lors du Symposium international des chefs d'orchestre qu'a été publié ce manifeste, imaginé par près de 1000 participantes issues de 36 pays. Parmi les signataires, signalons Nathalie Marin et Claire Gibault. En voici un extrait sur une œuvre musicale de la compositrice haïtienne Carmen Brouard. «
nous dénonçons l'invisibilité du travail des femmes dans la musique, en particulier des chefs d'orchestre et des compositrices. Nous demandons instamment la mise en place d'une législation qui réponde aux exigences de valorisation et d'équité en favorisant l'égalité des chances et des conditions de travail pour les chefs d'orchestre ainsi que pour toutes les professionnelles de la musique. Nous sollicitons la mise en œuvre de politiques qui puissent garantir l'éducation et le développement musical des filles et jeunes en général. Le mouvement sollicite l'appui et l'engagement du public, de la classe politique et des responsables des différentes institutions culturelles afin que s'appliquent les propositions résultant de ce manifeste. C'était Microphone francophone, une émission écrite, composée et créée par Martin Ferron. Merci aux productions SEM, à la région Auvergne-Rhône-Alpes et à la Fondation Beati pour leur soutien financier.
Microphone francophone.
Francophone.
Microphone francophone.
C'est en priant le culte protestant que nous poursuivons notre journée.
RCF, écoutez la vie du bon côté. Connaissez-vous l'histoire de votre saint patron? Dans le Saint du jour, Isabelle Delaunay vous raconte la vie mouvementée ou plus religieuse des grandes figures de la sainteté. Le Saint du jour, c'est tous les matins sur RCF et quand vous le voulez, sur rcf.fr.
À l'occasion de la réouverture de Notre-Dame de Paris, La Croix vous propose 2 semaines de programmation exceptionnelle. Depuis l'incendie de 2019, une mobilisation sans précédent a permis de redonner vie à ce monument emblématique. Plongez avec La Croix au cœur de cette aventure humaine que représente cette restauration. Découvrez le lien unique des Français à Notre-Dame à travers une grande enquête sur les racines sociologiques et spirituelles de cet attachement. Notre-Dame, les secrets d'une réussite, un dossier exceptionnel de La Croix, disponible dès maintenant dans le quotidien et dans l'hebdomadaire chez votre marchand de journaux.